50 years ago, we made a remarkable moment in history when man landed and walked on the moon for the first time. It's amazing what we can do when we think beyond limits. That's why Vodafone are giving small businesses what they need to discover their full potential with their new unlimited 5G data plans. Plus, with the OneNet virtual landline, you can be online anywhere. Go beyond limits and see what your business can achieve. Search Vodafone Business Unlimited.
Vous écoutez
RMC. RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se t'affirme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Thomas Desson.
Émission produite par Cyprien Bétou ce soir avec l'entraîneur des jeunes du Racing Damien Périnel, avec un aficionado de l'OM Jonathan Macardy. Mais les surprises s'enchaînent, messieurs, avant de parler du coup de grisou de l'OM dans son stade. On en a parlé, ce sont des dirigeants qui en permanence pensent avant les autres parce qu'ils savent qu'ils doivent se renouveler. Olivier Piqueux est avec nous. Olivier, bravo pour cette victoire tout d'abord.
Oui, merci, c'est gentil.
Salut Olivier.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous.
Plein de choses qu'on veut aborder avec le directeur sportif du SCO d'Angers. Olivier, Jeff Rennes-Adélaïde, tout d'abord, on l'annonçait hier, partant pour Monaco, il est tout feu, tout flamme ce soir. Où en est-on ?
Non, c'est vrai qu'il vient de faire un match de très haut niveau. Bon, c'est pas une surprise, vous imaginez bien. Après, ce qui a été évoqué hier dans la presse, effectivement, beaucoup de clubs sont intéressés par Jeff, mais il n'y a pas d'accord. Il y a des propositions qui sont arrivées, des montants très importants. Mais je crois que pour réussir à finaliser le deal, il faut que tout soit aligné. C'est-à-dire que le joueur ait envie d'aller dans cet endroit, que les montants soient respectés. Et pour tout vous dire, mon envie, c'est qu'il reste avec nous. Alors c'est compliqué parce qu'il a pris une telle dimension que c'est... Ça va être compliqué de le retenir, mais en tout cas, je vais continuer à faire mon travail. Mais il n'y a pas d'accord, il n'y a aucun accord qui a été trouvé. On a des grosses cylindrées qui étaient encore présentes ce soir.
Ouais.
Bon, je crois qu'il a démontré la qualité qu'il avait.
Et Olivier, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais là, avec la fermeture du marché anglais, on sait que c'est là où l'argent est. On sait que c'est là où potentiellement le style de jeu de Jeff Rennes-Adélaïde, peut-être avec l'Allemagne, aurait le plus de succès. Est-ce que ça vaudrait quand même pas le coup, à la fois pour le joueur et pour vous, de le garder une saison? Pour le joueur, pour continuer de progresser dans un environnement où il se sent très bien. Et pour vous, parce que quand même, vous avez, c'est important pour vous de le garder, d'un point de vue purement footballistique, avec le possible départ de Bauken.
Non, merci d'avoir la même pensée que moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que dans le positionnement dans lequel on l'a installé, box to box, comme ça, au milieu, c'est difficile d'avoir son équivalent. Mais je parle même en Europe parce qu'il a pris une dimension et que c'est juste le début. Donc, je pense sincèrement qu'une année supplémentaire pourrait être ce qu'il aurait eu de mieux. Maintenant, on est un club où, et vous l'avez vu avec Nicolas Pépé, les joueurs franchissent des paliers chez nous et malheureusement le costume devient trop petit et les tentations
Olivier,
de partir.
Mais il va commencer à devenir à la taille le costume ou un autre quand même.
D'une part, et Olivier, franchement, vous parlez
soir,
par rapport.
Ce soir on a gagné, hein, donc ça va.
Vous parlez par rapport au club, mais ce que je vois, c'est la perspective du joueur. Ça serait, à mon avis, ça serait dans son intérêt de faire une année en plus avec vous, pour lui.
Non, mais c'est quelqu'un de très intelligent et en même temps très, très bien entouré.
Okay.
Et donc, vous avez vu le parcours qu'il a. Il a été formé à Lens, il est passé par Arsenal. Il a eu l'humilité, je considère que c'est l'humilité, de passer par notre club en prêt dans un premier temps et venir s'inscrire dans notre projet dans un deuxième temps, parce qu'il est arrivé il y a un an et demi sous la forme d'un prêt et depuis cet été, l'été dernier, pardon. Il s'est engagé pour notre club. Donc, il fait pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, il l'a prouvé avec toutes les sollicitations qu'il a depuis la fin de saison, après le championnat d'Europe. Faire ce match-là, alors que tout le monde pensait qu'il ne voudrait pas jouer ce soir, ça démontre toute sa capacité d'analyse et l'encadrement dans lequel, le cadre dans lequel il évolue. Donc voilà, on prendra une décision intelligente, je l'espère. Voilà. Nous, nous devons écouter les clubs qui transmettent des offres et faire en sorte que, avec Jeff, il y ait un discours, tout simplement, et lui proposer les projets et faire en sorte que la meilleure décision soit prise.
Olivier, avant de vous remercier, on parle de costume. Il y en a un autre qui a un costume très cintré, pour le coup. Karl Toko Ekambi s'en va après avoir marqué 17 buts, après entendre Toko Toko dans les tribunes. Bauken, plus de 10 buts. Dès qu'on marque plus de 10 buts, ça y est, il faut dire au revoir. Stéphane Bauken était sur le banc ce soir.
Mais non, Stéphane était à la CAN, si vous vous souvenez. Il a fait un retour un peu plus tardif avec Ismaël Traoré, la Sénat Koulibaly pour Côte d'Ivoire et le Mali. Et donc non, tout simplement, ce soir, il ne devait pas être sur le banc. Mais compte tenu de la blessure d'Angelo Fulgini, il a pu rentrer plus rapidement. Et pour le moment, il était avec nous. On a dû discuter aussi pas mal le concernant avec l'Angleterre, parce qu'il y a des sollicitations. Mais c'est, encore une fois, si vous parlez de Karl Toko Ekambi, la première saison, il l'a faite chez nous. Il était sollicité. À la fin d'année, on a fait un gentleman agreement pour dire refais une grande saison et tu pourras partir où tu voudras. Il a marqué 17 buts lors de la deuxième saison. Et c'est un peu le discours que je tiens avec Stéphane Bauken. Fais une deuxième saison chez nous. Tu as marqué 11 buts en championnat l'année dernière. Tu es devenu un titulaire avec l'équipe nationale du Cameroun. Et peut-être que ça va être encore un moyen pour toi de franchir un palier et d'aller chercher des clubs avec une autre dimension encore.
Bonsoir Olivier. Damien Périnel.
Bonsoir. Oui,
d'ailleurs,
chanté.
De même. Bon, on s'était rencontré quelques fois. Vous étiez sur le bord du terrain, moi j'étais dessus. Donc, on se souvient, National, Ligue 2, Ligue 1, les présidents ont changé. Les coachs n'ont pas beaucoup changé. Il n'y en a eu que deux, je crois, Jean-Louis Garcia et aujourd'hui Stéphane Moulin. Mais donc, en gros, il n'y en a qu'un seul qui est resté, c'est Olivier Piqueux. Et le club n'a cessé de grandir. Et en fait, Olivier Piqueux, il va rester longtemps à Angers ou il va intéresser
le club ? On lui avait demandé ça, je crois.
Non, ben c'est gentil, Damien, de s'inquiéter. C'est vrai que j'ai eu deux présidents. C'était la 14e année, deux présidents, deux coachs. Donc ça démontre effectivement une grande stabilité et le choix des hommes pour les projets est au cœur de la vie que je veux mener aujourd'hui, de mon après-carrière de joueur. Et voilà, pour le moment, je pense pas à moi. Je crois qu'il y a un travail à réaliser d'ici à la fermeture du mercato. Voilà, il y a des sollicitations que j'ai reçues avec beaucoup de fierté, mais pour le moment, je veux me concentrer. C'est compliqué pour moi de partir à un moment de mercato et de quitter un club pour lequel j'ai travaillé comme ça, et je crois que ça serait une erreur fondamentale. On parlait des choix de carrière pour les joueurs en évoquant Jeffrey Adelaide et Stéphane Bauken. Il faut que je montre l'exemple. Et si d'aventure un jour je devais partir, c'est que tout doit être aligné. J'ai la chance d'être aujourd'hui dans ce club.
On se souvient de la paire d'attaquants Emmanuel Desgeorges et Olivier Piqueux au stade de la Licorne à Amiens et à Moulonguet. Ah bon, quand même.
Et ouais. Olivier Piqueux qui a travaillé avec Willy Bernard et aujourd'hui Saïd Chaban. Gardez de la batterie parce que les scouts vont vous appeler. Donc on raccroche parce qu'il vous faut de la batterie en ce moment, Olivier
c'est
Piqueux,
ça,
dans cette période.
Bravo Olivier encore pour tout le travail. Hein. Franchement, bon, c'est impressionnant Olivier. Hein. Bravo.
À très vite.
Merci.
Au revoir.
Alors, voilà, c'est ça. Parce que changement de discours.
Les manches, c'est déjà fait.
Changement de discours. Et ouais, c'est la même chanson. C'est toujours un peu le même refrain. Défaite de l'OM ce soir, cet après-midi, fin d'après-midi. 2-0, simplement pour planter le décor. Première frappe cadrée à la 53e minute de Dimitri Payet. Apathie offensive. On le sait, Valère Germain, quand il n'est pas associé, ça devient.
Non. Valère Germain est nul. Faut arrêter maintenant. C'est pas une question d'être associé.
Il a besoin d'être associé.
Il est nul.
Et on va simplement
dire. 300 000 euros par mois, il est nul. Je suis désolé.
Damien, certes, l'OM n'a pas été bon. Reims a été très fort. Avec ça, messieurs, qu'est-ce qu'on fait de l'OM ? André Villas-Boas a dit l'objectif est toujours le top 5, mais comment faire ?
Vas-y Damien, parce qu'après, je vais plus m'arrêter.
Le problème, c'est Olympique de Marseille. Quand tu regardes le match et que tu prends, tu fais ta compo, tu regardes le match, tu prends des notes tactiquement et tout. Mais en fait, ce que tu te rends compte, c'est que cette équipe n'a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme sur ce terrain. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de fierté. Quand on voit que tu commences une saison, je suis désolé, on va être obligé de tailler forcément, mais quand tu commences une saison, t'es là, tu fais un footing, tu fais pas un sprint, on peut parler de chaleur, de tout ce que tu veux, mais t'as pas d'envie, en fait, t'as pas de caractère, t'as pas de cœur. Techniquement, c'est d'une faiblesse. T'as l'impression que c'était leur premier match, mais en fait, leur premier match tous ensemble.
Mais c'est ça.
Depuis, alors que c'est la même,
et
exactement
attends,
la même équipe.
Pas de cœur, alors qu'ils nous ont vendu le discours, le refrain de l'esprit de revanche. Mais, on va s'y remettre après la saison.
T'as une équipe qui est étalée sur 70 mètres. T'as une équipe qui ne sprinte jamais. Ils sont à 20 mètres les uns des autres, défensivement et offensivement. Ils se prennent des bouillons par des jeunes. Je suis désolé pour les supporters de l'OM, mais ça part très très mal.
Damien, tu nous parles d'hommes. Luis Gustavo a répondu que le maillot, à la fin du match, il ne l'avait pas assez mouillé. Écoutez-le. Luis Gustavo. On va avoir Luis Gustavo dans un instant qui parle de ça, qui parle de mouiller le maillot parce que les cadres, ils ont été identifiés. André Villas-Boas a identifié quatre hommes. Oui. Le capitaine, Steve Mandanda, et puis ces cadres-là, Luis Gustavo, Dimitri Payet et Thauvin.
Bon, écoute, franchement, dans cette équipe, ce match-là, on va être très clair, on a eu l'impression de voir le même Olympique de Marseille apathique de l'année dernière, sauf que c'était pas Rudy Garcia sur le banc, c'était André Villas-Boas. Et les deux petits points positifs, parce qu'on va commencer par ça. C'était, les deux petits points positifs qu'on peut commencer, c'est qu'il a quand même fait un changement avant la 80e minute. Et qu'en conférence de presse d'après match, il a pas dit oui, mais si Angers n'avait pas mis de but, on aurait fait match nul. Non, il a quand même totalement avoué la défaite en disant qu'il la prenait pour lui. Après, moi, outre ce qu'a dit Damien.
Tu vas tellement vite pour nos auditeurs. Dario Benedetto qui rentre effectivement, qui joue.
C'est un détail. Ce qui compte, Damien a été très juste. Les joueurs ont fait un footing. Il y avait aucune cohérence. T'avais l'impression de voir vraiment une équipe d'amateurs jouer. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que là, on nous vend le projet. Jacques-Henri Hérault nous dit voilà, on a pris un entraîneur qui a un nom connu dans le monde du football. Il arrive, il fait son opération séduction. André Villas-Boas, il parle bien, il s'exprime bien, il parle déjà français. Il fait pas de langue de Blois. Mais d'un côté, tout après Rudy Garcia aurait eu l'air rafraîchissant. Tout après cet enfer que les supporters olympiens ont vécu à Garcia aurait l'air meilleur. Mais ce que je vois, c'est que très franchement, il y a quand même eu des matchs l'année dernière avec le même effectif et que t'as l'impression qu'il refait les mêmes cagades. Alors, Gustavo Strootman, mais depuis le début, on sait que ça fonctionne pas. On sait que les deux sont incompatibles. Là,
au bout de 20 minutes, il était
à ce moment-là.
Mais même pas un moment dans le match, Strootman, il était ailier. Il était ailier alors qu'il est cramé. À un moment, c'est lui qui prenait le couloir droit et le couloir gauche. Donc ça, c'est pas possible. Dimitri Payet, il y a eu des matchs quand même. Il les a vu les matchs, André Villas-Boas, de l'année dernière. Dimitri Payet, sur un couloir, c'est pas possible. C'est un joueur d'axe. Tu le mets sur un couloir,
à ce moment-là,
ça ne marche pas.
Si tu sais que t'as un entraîneur lusophone, portugais, qui ne va jouer qu'avec une seule pointe, et pas d'accord avec toi, Valère Germain associé, tu peux être top 4. Mais aujourd'hui, tu peux pas prétendre plus. Ils l'ont été avec Nice.
Valère Germain, il prend pas un ballon de la tête, il fait 1m83. Il est nul. Mais Valère Germain, 300 000 euros, faisant séparer, c'était l'une des plus grosses boulettes. Attends, tu sais quoi, au salaire, Valère Germain, c'est limite presque une plus grosse arnaque que Mitroglou pour l'OM. C'est fini, il faut qu'il s'en aille.
Et il faut, comme Luis Gustavo dit, mouiller le maillot. Écoutons-le.
C'est un club très, très spécial. On peut dire que c'est la pression, mais c'est pour moi, c'est une pression positive. Parce que le public, vous, qui ont donné tout sur le terrain, qui ont essayé de gagner le match, qui ont essayé de mouiller les maillots, quand on est tous ensemble, on est plus fort et ça, c'est le plus important.
Déjà, regarde. Une pression positive, il a raison. Normalement, tu n'as qu'une seule envie, c'est de le jouer ce match.
C'est la revanche,
C'est de jouer, d'y aller, tu dis, ah, c'est fini maintenant. Et là, au bout d'une minute trente de jeu, mais t'as un face-à-face Mandanda qui va sortir
un positif arrêt. Mandanda, hein. Si on doit sortir quelque chose de cet après-midi, Mandanda fait un gros match.
Ton premier ballon haut récupéré, je l'ai noté, c'est la 17e minute. Ton premier ballon récupéré dans la zone adverse.
Ah, ça me fait plaisir que tu parles de ça. Parce qu'il y a un joueur qui, pour moi, était un petit peu la clé du mercato olympien. Il a dit qu'il voulait pas partir, qu'il voulait rester. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font preuve de beaucoup de mansuétude à son égard. Moi, pour moi, depuis 8 mois, c'est un des joueurs les plus scandaleux de cet effectif-là. C'est Morgan Sanson. Encore une fois, une prestation cataclysmique. Alors, je sais que c'est pas lui qui gère son compte Twitter, mais faut qu'il arrête avec ses trucs avec son sponsor New Level, parce que c'est Morgan New Level Sanson, le New Level, on le voit pas du tout. Mais là, en première période, sur 8 duels, il en perd 6.
Tu aurais souhaité que Morgan Sanson parte en Angleterre pour libérer la place à Rongier, par exemple.
Mais tout peut être mieux que Morgan Sanson actuellement. Et c'est encore plus frustrant parce qu'on sait que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Mais là, encore une fois, il est aligné. Il a sa place. Il profite du fait que Maxime Lopez soit encore un petit peu juste pour démarrer. Parce qu'on a très bien vu dans la préparation que André Villas-Boas privilégiait Maxime Lopez. Et là, il sent encore un match, mais d'une indigence.
Tu m'as appris un terme lors de ma première. On a vu les beaux sourires parce que c'est le nouvel entraîneur. Mais écoutez quand même André Villas-Boas qui nous dit qu'il faut avoir plus de confiance. Tu sais ce fameux terme-là. Écoutez André Villas-Boas d'abord.
Évidemment, un match comme ça te porte un peu la confiance de l'équipe. On doit monter en confiance. Monter en confiance avec une fête à la maison est toujours un peu plus difficile, mais on doit continuer à travailler. Cette équipe est très bien organisée. On a aujourd'hui trouvé de grandes difficultés dans l'attaque. Maintenant, c'est à moi, d'organiser de nouveau l'équipe, ouais, et de porter un peu plus de confiance.
Bon, il porte le chapeau,
il parle de l'attaque, mais
cette équipe est encore plombée par l'an dernier.
Le problème, c'est que oui, on est d'accord, de toute manière, là, le mercato, c'est Pipa Benedetto et c'est Alvaro González qui vient pour une sorte de rôle aller de troisième défenseur central, mais l'équipe, elle n'a pas été renforcée. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est que j'ai envie de lui laisser sa chance, André Villas-Boas, mais très franchement, quand tu vois ce qu'il a mis en place tactiquement, tu te dis qu'il n'a pas pris des erreurs du passé. Alors, je l'ai expliqué, Strootman Gustavo, c'est pas possible, de Morgan Sanson, c'est pas possible, Payet dans l'axe sur un côté, c'est pas possible. Mais je me demande en fait où est la nouveauté par rapport à l'année dernière. Et là, c'est là où j'ai très peur. La nouveauté, c'est juste qu'il est plus sympa et qu'il raconte pas de bêtises en conférence de presse comme Rudy Garcia le faisait. Mais pour en terminer avec Morgan Sanson, moi, Morgan Sanson, à la base, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
C'est pour ça que je t'ai chanté Dalida tout à l'heure. Hein. C'est la même chanson.
Exactement.
Sanson et Dalida.
Mais très franchement, Morgan Sanson, qu'est-ce qui se passe dans sa tête depuis un an? C'est un des premiers joueurs à avoir lâché l'année dernière. C'est un joueur qui est, par rapport à son potentiel, qui est, on peut le dire, le plus décevant. Et là, il a sa chance de montrer au coach qu'il a sa place de titulaire et de sortir un match comme ça. C'est pas possible. Pourquoi?
Pour revenir un peu sur ce qu'on a pu voir tactiquement, techniquement, on a vu une équipe, mais vraiment éparpillée sur le terrain. Défensivement, on a vu, j'aime pas dire le mot bloc, quoi, mais voilà, il y avait tellement d'espace entre les joueurs.
La
charnière centrale, mais mon Dieu.
Et au milieu, attends, la faute à qui? Morgan Sanson, il était toujours au front en phase de transition.
C'est pas le seul. Quand tu vas faire un pressing.
Il a un rôle primordial au milieu, Damien.
À l'heure sur Sanson ou même, comment il s'appelle,
Strootman.
Tu vas faire un pressing à deux à l'heure, tu te fais éliminer très facilement. À un moment, t'as Strootman qui rate une action, les quatre joueurs.
Ils se regardent.
Ils regardent en première mi-temps. C'est-à-dire, voilà. Camara, quel est ta sar? Au bout d'un moment, va falloir. T'as des espaces de 30 mètres. À un moment, t'as un ballon dans l'axe anodin.
Tu sais ce que je pense? Quel est ta
sar pour prendre un carton rouge?
Les deux, c'est des bons joueurs individuellement, mais je pense qu'ils sont trop jeunes pour jouer ensemble. L'année dernière, ils ont fait un petit peu illusion parce qu'ils ont tenu la baraque, parce que de toute manière, l'OM était dans un tel marasme, mais il leur faut un joueur d'expérience cet été.
T'as aucun dynamisme dans leur course, t'as pas de changement de rythme.
Il y a aucun leader, aucun taulier.
Quand tu vois l'équipe de Reims. Mais c'est-à-dire que.
Il faudra en parler de cette équipe de Reims dans un instant.
Mais eux, quand ils font des sprints, ils les font à 100%.
Messieurs, le 32-16, perte de confiance des joueurs égale perte d'espoir chez les supporters. Olivier était avec nous. Il y a un ras-le-bol qui s'est installé depuis un moment qui est encore là.
Messieurs, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Salut Olivier.
Bonsoir Olivier.
Écoutez, je, les considérations tactiques, tout ce qui a été dit dans votre émission, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Maintenant, j'aimerais vous dire un truc. Moi, cet après-midi, moi, j'ai 45 ans. Ça fait 20 ans, 25 ans que je vais au stade. Ce soir, j'ai mené ma fille. Elle a 5 ans. Qu'est-ce que je dis à ma fille? Je lui dis quoi? C'est ça l'OM? Héros, tu m'écoutes, Héros, ce soir? Tu vas retourner voir Mickey, Donald et Dingo, là? Et tu vas arrêter de nous emmerder, là? Parce que tu sais quoi, Héros? Tu es en train de nous tuer. Moi, ce soir, j'ai payé 80 euros. Je suis un fidèle de l'OM. Les Yankees ont disparu. J'ai payé 80 euros. 40 euros pour une fille de 5 ans et 40 euros pour moi pour aller en gagner à 3 kilomètres de la pelouse, à 3 kilomètres.
Olivier.
Pour voir 11 chèvres qui broutent la pelouse.
Mais Olivier.
Alors moi, oui.
T'as quand même pu bénéficier de la nouvelle sonorisation du stade Vélodrome. Merci Jacques-Henri.
Bien sûr, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu sais quoi? Moi j'ai besoin que l'OM gagne. Si l'OM gagne, moi, je passe une bonne semaine.
Et s'il te met des LED dans le stade, comme
tout
il veut.
Bien. Tout ça, va bien à la maison. Écoute, mais si l'OM perd, l'OM perd, c'est pas grave. À condition, que l'OM a donné la bonne image. À
c'est
condition
ça.
Que l'OM s'est
le
cœur,
je suis d'accord avec toi. L'image.
Non, laissez-moi finir, les gars. Laissez-moi finir. Parce que je parle pour plein de Marseillais, là, ce soir. Je parle pour des mecs qui se saignent pour venir vous voir. Je parle pour les Yankees Champagne, qui sont dans le bus et qui seront chez eux demain matin à 6h du matin. Et qui ont vu quoi? Qui ont vu Sanson marcher, qui ont vu Payet courir à moitié, et qui ont vu quoi? Ils ont rien vu ce soir. Pourtant, ces mecs-là, tout le mois, ils travaillent pour se prendre une carte, pour prendre le bus, pour descendre à Marseille, et pour soutenir leur équipe. Mais là, ça devient difficile, les gars. Parce que Donald, c'est à Disneyland. Et là, tout le monde se moque de nous. Tout le monde se moque de nous. On est l'OM.
40 euros, c'est une entrée à Disneyland.
Si Daniel était là, je lui dirais quoi? Je lui dirais, Daniel,
Tu as raison sur ton image du foot. On a besoin de voir du beau jeu. Mais nous, on a besoin de voir l'OM qui gagne.
De la Grinta aussi.
On a besoin
aussi,
de voir
moins,
l'OM qui représente la ville.
Et
on
bien
a
sûr,
besoin de voir ça.
Qui respecte
mais
le maillot.
On a besoin
les,
de voir
alors,
ça.
Attends, juste, Olivier. Là, on s'éloigne du sujet parce que Jacques Henriero, c'est sûr que, à mon sens, c'est probablement un des pires présidents de l'histoire de l'OM, si ce n'est le pire.
Mais on est d'accord.
Mais là, il y a quand
on
même
pleurait,
beaucoup de choses à dire sur le match et l'effectif. Moi, ce qui m'inquiète, Olivier, bah, la Brune, au moins, il allait chercher des bons joueurs, hein. Lemina, Mboula, Benjamin Mendy,
mais
on peut se moquer de lui, mais au moins, il avait des idées. Il a ramené Bielsa. Le problème de Jacques, de cette OM de Marseille là.
Vous pouvez pas dire la Brune, quoi que ce soit. Vous étiez, tout le monde était très content.
Non, mais tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Le mérite de Jacques Henriero, c'est qu'il rend la Brune sympathique. Il rend même Jean-Claude Dacier sympathique.
Mais non, mais attendez, mais... allez une strate au-dessus, il y a toujours des gens qui ont été élus. C'est l'après Louis Dreyfus qui est difficile de dire. De
non,
dire
mais
la
attends,
brume...
tu peux pas dire ça. Ben, tu peux pas dire ça. Ben,
on est en finale
de Coupe d'Europe. Tu peux pas dire
ah,
ça.
Ah, mais c'était une parenthèse enchantée. Dans le jeu, il y avait rien, Olivier. Bon, et
non,
puis même après la brune, je suis désolé, mais Chikolungu, il a fait mieux. Il a fait mieux qu'Héro.
Non, mais attends, arrêtez-vous, les gars. Arrêtez-vous, parce que là, la situation, elle est grave. Arrêtez-vous. On s'en fout du jeu, là. Ce qui se passe ce soir,
mais
c'est
non,
que
mais...
le stade de
bon,
Reims.
Attends, Olivier, ça part dans tous les sens, là.
Le stade de
ça
Reims.
Ça part dans tous les sens, Olivier.
Laisse pas les gens, les gars.
Le stade de Reims vient gagner 2-0 à Marseille ce soir.
Non, donnant une
c'est
leçon
pas Lyon
en fait.
Qui vient gagner à Marseille. C'est pas Saint-Etienne.
Mais c'est une bonne équipe, Reims. C'est une bonne équipe, Reims. David Guillon est un très bon coach et Reims, c'est une belle équipe.
Qui vient nous mettre la pâtée, qui vient nous mettre la leçon tactique. Et on va nous demander de boire de la tisane demain matin? Moi, la tisane, j'en peux plus, hein.
Ouais.
Moi, la tisane, j'en peux plus. Arrêtez-vous. Rendez-nous notre club. Rendez-nous notre fierté. Moi, j'ai vu des gens malheureux. J'ai vu des papas. J'ai vu des papas aujourd'hui. J'ai vu des papas qui se sont saignés pour offrir une place au stade à 40 € pour un enfant de 6 ans. 40 € pour un enfant de 6 ans. Ils se sont saignés.
Olivier, je suis désolé, mais c'est pas le sujet. Alors, si on, il faut se recentrer quand même sur ce qu'on a vu sur le terrain, parce que c'est quand même ça que nous, on doit analyser.
Mais t'as vu quoi?
Non, attends, écoute, Olivier, stop.
Mais t'as vu quoi?
Olivier, justement.
Regarde plutôt ce qu'il
Olivier,
y a à Marseille.
Écoute-moi.
À Marseille, il n'y a
stop.
Plus rien sur le terrain.
Non, ça part là.
Olivier, calme-toi, Olivier.
Lazardère, c'est d'un supporter qui parle à un supporter. Alors, attends, moi, je vais vous dire quelque chose. Déjà, quand vous partez en disant c'est l'OM, désolé, mais Reims, va falloir l'accepter à un moment, Olivier. Déjà, Reims, l'an dernier, à un moment, était au-dessus
mais
de l'OM. Donc, les valeurs et le passé. Voilà.
Mais
donc, à un moment, je me permets, parce que je suis père de famille aussi et que ça part en live depuis 5 minutes et vous vous parlez l'un sur l'autre. Mais de parler de sa fille ou de son fils ou etc.
On s'en fout.
C'est ça l'OM. Malheureusement, depuis 2 ans, le passé fait que c'est un boulet pour les supporters de l'OM, parce que ce passé qui a pu être glorieux, aujourd'hui, on n'arrive même pas à les fleurer.
Mais c'est pas ça du tout qui est un boulet pour les supporters de l'OM. Le vrai boulet pour les supporters de l'OM, c'est qu'il y a deux, trois saisons, t'as un mec qui est arrivé en disant que c'était le champion de projet qui est posé à côté
Exactement.
De la Ligue des Champions. C'est ça le
Exactement.
Problème. C'est la déception par rapport à l'attente qui a été générée lors de la vente du club.
Et maintenant, on fait quoi?
Maintenant, ce qu'il faut faire. C'est là que c'est intéressant.
Moi, attends,
juste Olivier, s'il te plaît. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de prendre en compte 2 choses. La première, c'est qu'André Villas-Boas, avant le match contre Reims, a sous-entendu que le mercato était terminé. Là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à faire les matchs à 10 avec Jordan Amavi côté gauche? Je pense que la situation est alarmante.
C'est le plus. Alors, on va revenir au terrain, justement, on en a besoin.
Oui,
parce
exactement.
Que, justement, ce soir, contre toute attente, celui qui est le plus sobre et qui est pas le plus mauvais, c'est Jordan Amavi. Donc, c'est là qu'il y a un
vrai
tout. Non, il loupe tous ses contrôles, il met en danger, il couvre sur le premier but. Non, Jordan Amavi, non, il a encore été cataclysmique ce soir. Il a été cataclysmique ce soir.
Mais
le problème, c'est que c'est toute la défense qui a été mauvaise.
Il est chaotique depuis un moment, mais là, c'est pas le plus mauvais match.
Mais Radionik, il était comment?
Horrible. Mais Damien,
on va parler de Radonjic.
Il a joué quel côté Radonjic?
Attendez
les gars, il a mis quel côté Radonjic?
À droite.
Pourquoi tu le fais jouer à droite?
Est-ce que tu préfères mettre
on va parler 2 secondes de Reims quand même, et vous étiez en train de poser une question, donc on va garder Olivier un instant avec nous. Plutôt que, non, je te jette pas du tout Olivier. Écoute justement, je suis pas en train de te jeter, mais plutôt que de faire du joueur par joueur, parce qu'on peut y passer la nuit, on est quand même dans l'after et c'est la France entière. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines à venir à Marseille? Changement d'entraîneur, même topo. Voilà, en une minute, comment on voit l'avenir? Vas-y Olivier.
Bah, l'avenir, franchement, je le vois pas très rose, quoi. Putain, on n'arrive pas à battre Reims au premier match du championnat. Le stade, il est à moitié vide. Le stade, il est à moitié vide aujourd'hui. Avec tous les touristes qu'il y a à Marseille, les mecs qui sont contents, c'est la première fois qu'ils font le vélodrome, ils vont entendre le Hozard et tout. Rendez-nous les Yankees. Rendez-nous au moins la ferveur. Rendez-nous au moins la fierté. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Dans le bas du virage nord, il n'y a plus de tambour. Il n'y a plus de tifo.
On s'en fout, Olivier. On a beaucoup d'affection pour ta gamine et pour les tambours, mais on s'en moque. C'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Non.
Mais c'est quoi qui t'intéresse?
Une équipe compétitive. Non, on comprend la détresse d'Olivier. Et je vais te remercier là-dessus, Olivier. Et tu nous rappelles quand tu veux. Je l'espère avec effectivement, dès lundi matin, un petit peu plus souriant le plus vite possible.
Après, les gars, quand même, on va quand même essayer de garder la tête froide. Il manquait Maxime Lopez, il manquait Florian Thauvin et Benedetto, voilà, il vient d'arriver, c'était peut-être un petit peu trop tôt et c'est quand même trois titulaires en puissance. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que dans ce qu'on a vu là, dans ce qui a été proposé, est-ce que tu sens, Damien, la patte de l'entraîneur? Tu vois, le mec qui amène quelque chose, est-ce que tu sens que l'équipe, t'as senti quelque chose?
Non, mais après, c'est un peu tôt pour avoir une
patte. Il veut que tu répondes non, hein. Parce que tu peux pas répondre autre chose que non.
C'est un peu tôt pour avoir la patte de l'entraîneur. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, comme je te l'ai dit au début, c'est un footing de 90 minutes et j'ai pas vu des bonhommes sur le terrain.
C'est ce que tu avais dit dans tes trois points à l'intro.
Mais c'est tellement, c'est le cœur.
Et comment tu l'expliques?
N'importe quel sport. Tout ce que tu veux, tant que tu fais pas les choses avec de l'envie, rends-toi le truc intéressant, à la limite.
On va tarder simplement un truc, parce qu'il a parlé des Yankees Champagne, mais peut-être qu'il pourrait regarder ailleurs. Ce soir, Boulaïdia était quelqu'un qui jouait en National 2 il y a deux ans. Dingo Messébien, sous Kamil Dawa, il y a 2-0 et il n'y a pas photo, Damien.
Mais il n'y a pas photo. Et quand on entend en plus, à la mi-temps, le commentaire, c'était de Dingo Messébien, il me semble, et qui dit « Mais on savait très bien qu'on allait les tuer dans la profondeur ». Il y avait tellement d'espace dans leur défense. Et là, tu mets des bombes, tu mets Moussa Doumbia, tu mets Boulaïdia, qui lui a mouillé le maillot et qui n'hésite pas à aller tacler dans sa surface de réparation. Mais au-delà de ça, c'est un bon genre de football. T'as ton petit arrière gauche là, Hassan Camara.
Il a été énorme. Il a fait un match énorme.
Énorme.
Doumbia Camara. Messieurs, je suis obligé de.
Est-ce que c'est une surprise que Reims soit une bonne équipe par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière?
Non.
Est-ce que c'est une surprise de voir que Guillon c'est un des super coachs de Ligue 1?
Et encore.
C'est une bonne équipe.
T'as pas vu un stade de Reims extraordinaire? T'as juste vu un Reims qui a joué sur ses forces.
Premier match de la saison.
Bravo Rémois, messieurs, une grosse demi-heure dans l'after. On a envie d'aller voir Julien Laurence, notre ambassadeur de la Première Ligue, parce que il y a eu des gros matchs aujourd'hui. Il y en aura encore deux autres demain avec Newcastle, Arsenal et Manchester United, Chelsea. Et puis tout de suite, ce mercato avec Oussem Loussaïef consacré à ce cas Neymar. Les taux se resserrent. C'est l'after sur RMC. À tout de suite.
RMC. L'after foot. Thomas Desson.
Avec Jonathan Bacardi, avec Damien Périnel. C'est la dernière ligne droite. Une émission préparée par Cyprien Bétou. Et tout de suite, c'est le mercato.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le marchander.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Quel homme.
Il y a un cas Neymar qui est perdant-perdant pour le club, pour le joueur. Une douleur à la cheville l'empêchant de jouer contre Nîmes dimanche, demain soir, plausible. Un accueil du parc glacial, plus probable. Qu'est-ce que c'est que ce feuilleton Neymar qui continue?
Qu'est-ce que c'est que cette veste, Oussem, plutôt?
Ça, c'est ce qu'on appelle chez moi le style. Après,
pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent.
Halloween, ça fait beaucoup de carreaux, tout ça.
C'est une veste en tartan, un peu.
Voilà, c'est une veste à carreaux.
Pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est très intéressant de savoir comment est ma veste, mais elle est très jolie.
C'est son designer. Ça commence par un Z, ça finit par un A.
Exactement.
C'est Oussem pour l'élection printemps-été là.
On n'arrête pas de lui dire qu'il faut aller vite et les digressions sur ta veste.
C'est la cause de l'Olympique de Marseille. Pour revenir sur Neymar, scène totalement incroyable qui s'est déroulée aujourd'hui. Leonardo, une demi-heure avant la conférence de presse, convoque les journalistes de manière informelle dans un petit sas juste avant la salle de conférence de presse. Il les convoque. Messieurs, dames, j'ai envie de faire connaissance avec vous. C'est ce qu'on appelle la politesse brésilienne. C'est exactement les mots qu'il a eu. Et puis, d'un coup, il se présente, il serre la main à tout le monde et il dit, on va parler du cas Neymar. Prise en main du dossier Neymar de la part de Leonardo. Il parle du cas Neymar et il dit il y a certes des contacts avec certains clubs pour Neymar, des contacts concrets. Alors il n'y a plus de flou autour de Neymar.
Il y en a deux, les clubs du Classico.
Et il y a deux clubs, c'est le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, monsieur Desson? Eh bien, on a bossé. Et apparemment, selon nos informations...
Tu bosses, toi?
Eh ouais, mon gars, je passe
beaucoup de fil.
J'étais au téléphone avant d'entrer. Et selon nos informations, vous pouvez retrouver d'ailleurs ces informations-là sur le site rmcsport.fr. Le Real Madrid a un peu d'avance, est entré en contact avec Pini Zahavi, qui s'occupe du joueur. Et la tendance est que le Real discute un peu plus que le FC Barcelone. Maintenant, il faut rappeler deux choses. C'est que Neymar a demandé, il y a quelques semaines, de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone. Il n'a pas parlé d'autres clubs, il a parlé du FC Barcelone. Mais aujourd'hui, il y a une réalité économique que vous savez tous, messieurs, c'est que seul le Real peut s'offrir Neymar.
Rapidement, messieurs, Figo bis, tu passes par le PSG pour faire avaler la Valda un petit peu plus facilement.
Il y a quand même 2 ans entre, là aussi, entre les deux.
Ouais, ouais.
Non, mais surtout, moi, je ne vois pas le PSG vendre au Barça.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, sur tout ça, il y a des bonnes relations à la tête du club et je pense que le PSG est très content justement qu'il y ait un deuxième acheteur potentiel. Ça permet aussi quand même de faire monter les prix.
C'est génial cette situation parce que alors déjà je pense que dans l'after on est les seuls à avoir dit que la seule porte de sortie de Neymar c'était le Real et depuis le début de l'été. Donc effectivement, fallait pas non plus être Nostradamus, c'est le seul club qui a la surface financière pour assumer d'une part l'indemnité de transfert et d'une part pour assumer le salaire. Donc après est-ce que Zidane en veut, ça c'est une autre question mais
le discours a changé du côté de Madrid.
Voilà.
On est passé d'un Zidane qui n'en voulait pas du tout à un Zidane qui aime bien le joueur.
Et alors oui, et par rapport à ce que tu disais Thomas, faut savoir une chose, c'est que Neymar avant de signer au Barça, il avait signé un pré-contrat il me semble avec le Real Madrid, que le père enfin Neymar senior est en contact tous les étés avec Florentino Pérez, que Florentino s'est jamais caché qu'il voulait recruter Neymar un jour. Donc ça semble écrit qu'un jour Neymar joue au Real Madrid. Après moi ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est la manœuvre de Leonardo.
Changement de communication.
Voilà, qui reprend un petit peu la main. C'est vrai que le Barça par l'intermédiaire de son président, par l'intermédiaire du président de la Ligue espagnole, a un petit peu fait du PSG son paillasson ces dernières années. Sa chose. Alors il y a eu l'aftermath du transfert de Neymar. T'as eu cette affaire avec la Fédé qui voulait pas délivrer le permis de travail. T'as eu les joueurs que le Barça a piqué au PSG à l'image de Jong. Et puis les déclats un peu voilà le fait de continuer à draguer Neymar.
Jonathan
McCarthy
est persuadé que tout le monde écoute Dr Dre. Aftermath, les conséquences.
Ouais. Je savais même pas. Voilà. Et c'est pas mon genre de musique ça. Mais donc pour en finir, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je trouve bien, c'est que très franchement, t'avais l'impression qu'au Paris Saint-Germain, il y avait personne qui dirigeait, t'avais personne qui prenait la parole pour parler de ce genre de dossier. C'est pas Nasser qui allait s'exprimer, et que Thomas Tuchel l'année dernière, il s'est un petit peu laissé submerger par tous ses à côté sportifs, et qui fait que voilà, parfois en conférence de presse, il a sorti des belles saucisses. Là, t'as Leonardo qui revient, il prend les choses en main, il traite tous les sujets qui sont extra sportifs. Tuchel peut se concentrer sur le sportif, et voilà, t'as le shérif qui est revenu en ville, qui met de l'ordre, et puis Neymar maintenant, il a plus qu'à
s'affirmer.
Et juste pour faire très court, un truc que je trouve encore plus génial, c'est qu'en disant qu'il y avait des offres de deux clubs, tu sais très bien que c'est le Real et le Barça, et en même temps tu fous un petit peu la merde entre le Real et le Barça. Ça c'est le petit piment.
Sur Neymar, on était aussi les premiers à dire que peu importe où il devait atterrir, à partir du moment où il pouvait quitter le PSG, ça l'arrangeait. On disait ça début juillet, ouais. Et on sait très bien qu'en fait il va ne penser qu'à lui, que ce soit Barcelone. Allez, c'est un petit peu mieux, mais le Real, c'est quand même pas mal. Hein.
C'est la manière qui tracasse une nouvelle fois. Hein. La version officielle de l'absence de Neymar, bon, il est un petit peu, il est moins bien physiquement. C'est une chose. Arthur au 32-16 dit qu'on le voit pas contre Nîmes lors de l'ouverture du championnat. J'ai les boules. Bonsoir Arthur, c'est ça, c'est la manière qui est encore difficile à avaler pour les supporters du PSG.
Oui, bonsoir l'acteur. Alors bon, il y a dû avoir une petite erreur parce que j'ai pas dit que j'avais les boules de pas le voir contre Nîmes. C'est même au contraire, je suis très content qu'il ne joue pas contre Nîmes.
C'est moi, je suis fatigué, j'ai vu une négation. Non.
T'avais pas envie de lui mettre une bronca?
Ah, j'aurais bien aimé, voilà. Mais je pense que c'est secondaire. Je pense que je serais plus content que son départ se concrétise au plus vite. La bronca, j'aurais bien aimé la voir. On la verra peut-être pas du coup, parce que bon, le prochain match sera que dans 15 jours, à domicile. Bon, là, c'est pas prioritaire pour moi la bronca, ça aurait été très intéressant à voir. Mais cette bronca n'aura pas lieu parce que la direction du PSG, notamment Nasser Al Khelaifi, qui n'a pas su gérer un joueur du calibre de Neymar depuis 2 ans, ils ne veulent pas voir le plus gros transfert de l'histoire du foot, qui plus est qui est chez eux, se prendre une bronca. Ça leur a foutu très très mal, je pense, pour Nasser et toute la direction.
Alors pour appuyer sur ce que vient de dire Arthur, c'est que tout à l'heure Leonardo aussi nous a affirmé que tant que la situation n'était pas réglée, il y avait peu de chances qu'on revoie Neymar. Ouais. Il ne l'a pas dit explicitement, mais il nous l'a fait comprendre. Il nous a dit que tant que ce n'est pas réglé pour le bien-être du groupe, Neymar ne jouerait pas.
Même au-delà de ça, quand on voit Leroy Sané qui se fait les croisés une journée avant de se faire transférer au Bayern, ça fait une perte d'argent. Et là, si tu te reblesses avec Neymar, c'est compliqué. Hein.
J'extrapole, mais ça a pu le rendre friable, Leroy Sané, de connaître ce transfert. Quand ça n'allait pas bien pour Neymar, extra-sportivement, il se pète juste avant la Copa América. Donc ton joueur, s'il n'est pas au point mentalement, il n'est pas au point physiquement. Arthur, on va enchaîner parce que si Neymar s'en va, merci beaucoup Arthur, si Neymar s'en va, Oussem, on a peut-être un remplaçant.
On a un remplaçant, c'est un nom qu'on a souvent entendu ces dernières semaines partout en Europe, c'est Paulo Dybala. On l'a souvent entendu du côté de l'Angleterre et de Tottenham notamment. Et selon la presse italienne et selon aussi les informations qu'on est en train de traiter, je vais vous dire pourquoi je précise nos informations. Alors la presse italienne annonce que Leonardo est entré en contact avec la Juventus pour s'attacher les services de l'international argentin. Et nous, lorsqu'on a bossé aujourd'hui, on a appris autour du Paris Saint-Germain que Leonardo a attendu que le marché anglais se ferme pour pouvoir se concentrer et essayer de récupérer un Paulo Dybala plutôt, peut-être moins cher qu'il y a quelques semaines.
Ah oui, parce qu'on sait qu'il a failli aller à Manchester.
C'est ça, Manchester, ouais. Avec il y avait le deal avec Lukaku, puis après il y avait Tottenham qui s'était positionné.
Ah, oui, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Donc en effet, il y a eu l'histoire de Tottenham. Mais apparemment, l'affaire a capoté parce qu'il y avait sa société de droits d'image.
Des prétentions salariales trop élevées de la part maltaise. De la société.
Voilà, donc en fait ça, par contre, ce serait toujours le cas, même maintenant.
Après, Leonardo peut essayer de négocier avec la société pour récupérer, comme ce qui a été fait sur plusieurs joueurs, un certain pourcentage d'un joueur et non pas la totalité du joueur.
Mais... Je suis triste, on risque de perdre El Tigre.
Eh oui, ça c'est l'info Ligue 1 de la journée. Falcao s'est mis d'accord avec Galatasaray selon la presse turque. Alors il y a des images même qui circulent sur les réseaux sociaux et sur internet où on voit Falcao en compagnie du président de Galatasaray. Et donc selon la presse italienne, on parle d'un contrat jusqu'en 2022 et d'un salaire annuel de 5 millions d'euros pour El Tigre, lui qui n'a pas joué hier avec Monaco, on le rappelle, lors de la défaite face à Lyon.
Je suis un peu déçu aussi, parce que c'est vrai que ça fait de la peine de le voir partir de Ligue 1, c'est quand même un joueur, voilà, c'est quand même un nom.
Mais il y a 10 ans, c'était le meilleur neuf du monde avec l'Atlético.
Mais bien sûr, attends, c'est dans l'after qu'on en a parlé en premier en Europe.
Bah tu vois, mais c'est sans doute dans l'after
que
j'ai écouté.
Qu'est-ce qu'on disait ? On disait, il y a un joueur qui à River Plate qui est en pleine dépression nerveuse, plus personne n'en veut, c'est Radamel Falcao. Mais ça reste un bon joueur. Finalement, il a été à Porto pour une poignée de figues et il a fait la carrière qu'il a connue. Et justement, je te dis ça parce que j'aurais trouvé ça mignon qu'il finisse sa carrière à River Plate. Très franchement.
Ouais, Porto pour une poignée de figues, parce que si tu vas pour une poignée de figo, c'est plus cher. Allez, les Louis.
Il faut qu'il pense à sa famille. J'ai lu ça, comme c'était le cas avec Pauletta à l'époque.
C'est vrai qu'il a pas gagné beaucoup d'argent.
Puis Monaco paye très mal.
Après c'est normal, hein, moi peut-être non, mais c'est le jeu. À sa place, voilà, tu te fais de l'argent. Quoi, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être riche, c'est d'être encore plus riche.
Comme quoi le cœur de se dire allez, je finis à River.
On a dit une semi-bêtise avec Damien tout à l'heure. On a contredit Jonathan Macardy. On a dit on a besoin d'un gardien à Montpellier. Robin Olsen, ça semblait compromis. Tu nous dis le contraire.
Oui, c'est il devrait arriver. D'ailleurs, Laurent Nicolas nous l'avait annoncé sur RMC que l'agent était sur les lieux, était à Montpellier et qu'il devait rencontrer donc les dirigeants montpelliérains. Et selon la presse italienne, ça devrait être fait dans les heures, les jours qui viennent. Olsen va quitter la Roma sous la forme d'un prêt payant d'1,2 million d'euros avec une option d'achat de 7 millions d'euros.
C'est un bon
rappelle
gardien.
Que c'est un bon gardien.
C'est un très bon gardien.
Gardien titulaire de l'AS Rome lorsque la Roma a atteint les demi-finales.
Il a fini sur le banc derrière, mais il faut dire qu'à la base,
exactement.
C'est un bon gardien. Très bon choix.
Ribéry's va reprendre du service.
Tout le monde se pose la question, la planète football entière se pose la question, mais que va faire Ribéry pour son dernier contrat ? Tu dis ça parce qu'il va pas à l'OM.
Non, je suis content qu'il n'aille pas à l'OM.
Eh ben, il aurait pu rendre service
du côté de l'OM. Oui, ça, parce que l'identité du club pour la suite de votre avis, c'est important.
Deux clubs importants qui se sont positionnés et qui ont entamé les négociations, même qui ont bien avancé dans les négociations. Un club néerlandais, le PSV Eindhoven, et puis un club russe, le Lokomotiv
Moscou. Alors là, Kevin Diaz te dirait au PSV, c'est génial. Ribéry avait dit, je veux un grand d'Europe. Lokomotiv Moscou, ma foi. Jonathan.
Tu le verrais bien à l'OM.
On avait une rubrique qui s'appelait je m'en fous pas dans l'after. Moi, je m'en fous un peu.
Il y a eu une certaine aigreur de Jonathan McCarthy à dire je m'en fiche.
Pas du tout. C'est juste
une question que je pose.
Non, c'est pas du tout. J'aurais aimé qu'il raccroche sur une bonne note au Bayern Munich. C'est une légende du Bayern Munich. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et j'aurais aimé voilà, que ça se termine. L'histoire se termine au Bayern. Et pourquoi, ou alors, pourquoi pas qu'il fasse, avec tout l'argent lui qu'il a gagné, qu'il fasse un truc mignon à la Daniele De Rossi, à la André Pierre Gignac, aller jouer dans un vrai pays de foot.
C'est une saison de trop.
Pourquoi pas?
Damien,
j'en sais rien, à voir.
Gianluigi Buffon, c'était peut-être une saison
encore
de trop.
Une fois, à voir si le challenge est intéressant et que ça le stimule. En fait, surtout ça, à son âge, au bout d'un moment, t'as plus rien à prouver. Après, revenir à l'OM, enfin, même si c'était pas la question, mais il a tout à perdre à faire ça. C'est une légende, donc il y a pas de raison.
Le Lokomotiv Moscou joue de la même couleur que le Bayern de Munich, tout en rouge.
C'est peut-être ça aussi.
Moi, j'aimerais voir plus de joueurs faire comme Daniele De Rossi, tu vois, qui ont bien gagné pendant leur carrière, qui leur reste aller encore une ou deux saisons dans les pattes, aller faire un club mythique dans un autre sur un autre continent. Je trouve que je pense que l'expérience doit être pas mal. Je sais pas, Damien, si on t'avait proposé d'aller finir ta carrière,
j'ai
aux États-Unis.
Moi, j'ai eu aux États-Unis. Et après, il y avait un truc avec un club en Équateur, Barcelona.
Je joue la Copa Libertadores.
Attends, mais si ça avait pu se conclure, j'aurais été content de faire un an là-bas, pour l'expérience.
Pour l'expérience ou pour l'Équateur?
Il y a un peu de tout, parce que, en tout cas, pas pour les équatoriennes, ça c'est.
Attention, ce genre de remarques, les amis. Ouais.
D'ailleurs, hey, toi, hey, attention, parce qu'Agnès Buzyn, sur la maison du whisky, elle va tomber sur le point de la tête.
Exactement. Là,
Colombie, Venezuela, d'autres contrées.
Bon café.
Tu veux nous parler de Mangala, mais Eliakim Mangala ?
Eliakim Mangala qui est à Manchester City. Alors, je dis qui est avec, et je prends mon temps pour le dire, parce qu'il y est physiquement. Oui. Il n'a pas beaucoup joué, mais il revenait du.
Combien de matchs en tout ?
Je sais pas du tout en tout combien on a fait, mais on n'a pas fait beaucoup. Mais il a été longtemps blessé aussi, hein, on le rappelle, il a été blessé à un genou. Alors Eliakim Mangala pourrait revenir du côté de Valence, on le rappelle, il a déjà joué du côté de Valence en 2016-2017, il avait même beaucoup joué du côté de Valence. Et donc Valence serait intéressé pour récupérer l'ancien international.
79 matchs avec les Citizens, nous dit Cyprien Bethou.
Ouais, depuis 2014. Ouais.
Voilà, 5 ans.
Il joue pas depuis 2-3 ans.
Il y a eu des allers-retours déjà.
Il l'avait payé combien déjà?
Avec
une bonne quarantaine de
minutes. Il a fait les Toffees avec Everton, il a déjà fait Valence du coup.
Mais oui.
Quel âge ? Il a quel âge là ?
Il a 28 ans. 29, non ?
Où est-ce qu'on a raté une coche avec Mangala ? Où est-ce que ça s'est.
Il a été blessé pendant longtemps. Il a été blessé pendant longtemps. Il s'est fait les croisés.
Il a été blessé, mais pour moi, ce qu'il a tué, c'est surtout l'arrivée de Guardiola à Manchester City. Parce qu'il veut des défenseurs avec un.
Avec un joli léché.
Bien sûr, et c'est pas spécialement les qualités de Mangala. Il aurait peut-être dû partir avant, après, le salaire qu'il a à Manchester City, ça doit pas être simple de le trouver ailleurs.
Un rang plus haut, Moussa Sissoko n'aurait pas joué avec Pep Guardiola.
Mais est-ce qu'on peut dire que Eliakim Mangala est peut-être été un petit peu surcoté aussi?
Pourquoi tu dirais ça?
Parce qu'à un moment, quand il arrive à Manchester City, quand il fait sa belle saison à Porto, tout le monde dit ouais, c'est l'avenir de l'équipe de France.
Mais il a joué quand même.
Il a jamais été grandiose.
Le prix était grandiloquent à l'époque.
Je pense que c'est un très bon défenseur central, mais qu'il a pas le niveau forcément Ligue des Champions. Après, voilà, il est encore jeune.
Encore une fois, ça dépend le club dans lequel t'évolues et le système de ce club-là.
C'est un joueur à la Kurt Zouma, à la Mamadou Sakho.
Je vais quand même vous faire remarquer quelque chose.
Défenseur, mais sans plus.
Oussem Le Saïf, délibérément, nous parle de mercato avec des joueurs un petit peu sulfureux. Parce que le dernier choix, c'est Perisic. Il y a quand même un profil chez toi de choix.
C'est parce que je voulais terminer par une bonne note et une bonne dédicace à nos amis sochaliens. Parce qu'ils l'ont eu à Sochaux, Perisic.
Sûr, on s'en rappelle.
Perisic est donc sur le point de quitter l'Inter pour rejoindre le Bayern Munich. C'est lui, le fameux remplaçant de Robben et Ribéry. Ben, on parlait tout à l'heure de Leroy Sané.
Peut-être pas les deux en même temps.
Mais il peut le faire. Il peut le faire. Il est tellement doué qu'il peut le faire. On parlait de Leroy Sané qui n'ira pas à cause de sa blessure au genou droit. Et donc c'est Perisic qui devrait rejoindre le Bayern Munich. On parle d'un prépayant de 5 millions d'euros avec une option d'achat de 20 millions d'euros. C'est pas cher payé 20 millions d'euros.
Mais après, c'est un joueur qui peut être brillant, mais qui est relativement irrégulier, quoi.
Sinusoïdal, en tout cas, effectivement, peut jouer à 3 ou 4 postes, hyper polyvalent. Un peu comme toi, Oussem, qui était toutes les antennes de RMC et BFM.
Et j'ai pas même joué aussi tous les postes sur un terrain de foot, pas que les antennes.
On
a vu ça, il connaît la relation.
Par contre, t'es un petit peu victime de la mode. C'est l'after sur RMC, c'est la première ligue dans un instant. Merci de nous suivre.
RMC, l'after foot, Thomas Desson.
Avec Jonathan McCarty, avec Damien Périnel. Damien, il y a un N qui traîne là-dedans, c'est pour notre dernière ligne droite. Et avec un mec, messieurs, vous lui demandez sur commande, dis donc, est-ce que tu pourrais nous avoir un ambassadeur de Liverpool, un mec qui a gagné le dernier titre en 90, il te répond, tu veux du John Barnes, tu veux du Ian Mulby, il te le fait sur commande. C'était lors de l'ouverture de la saison sur RMC hier. Bonsoir Julien Laurence, il était avec Ian Mulby notamment, et on a vu, Julien, un Liverpool sur la première mi-temps, plutôt super.
Oui, plutôt bien en jambes. On en avait parlé un petit peu hier soir dans l'émission. Même si tout n'a pas été parfait, hein, on y reviendra peut-être d'ailleurs tout à l'heure. Quelques flottements en défense, on va dire, ce qui est un petit peu normal aussi pour une première journée. Mais en tout cas, pour aller vers l'avant, offensivement, c'est vrai qu'ils ont été plutôt bien en jambes en première période et ils auraient pu marquer plus que 4 buts, ils auraient pu en encaisser plus qu'un aussi, mais dans l'ensemble Klopp était plutôt satisfait de la performance malgré la blessure d'Alisson qui est le seul point noir de la soirée d'hier, même si on ne sait pas encore exactement combien de temps il sera absent.
Ouais, blessé au mollet qui va manquer cette super coupe à Istanbul, rendez-vous mercredi 14 août sur RMC. Ça nous fait rebondir sur ce champion qui était plutôt au diesel, City qui met un but triplé de Sterling, 5-0, une manita à l'arrivée, et Tottenham qui s'est imposé dans le dernier quart d'heure. Justement, je te laisse nous raconter ces matchs du jour, Julien.
Oui, on va commencer par le champion, hein. Honneur au champion Manchester City qui de toute façon a toujours l'habitude d'aller à West Ham et de leur mettre des fessées. Ils ont fait la même chose aujourd'hui, 5-0, triplé Sterling. Tu te rappelles, on en avait parlé le soir du Community Shield Thomas dans l'émission en disant qu'il avait vraiment franchi un palier la saison dernière et que déjà en pré-saison il était déjà en mode très très fort. Il l'a confirmé aujourd'hui avec son triplé, avec son activité. Gabriel Jesus a marqué aussi. On a eu le premier incident de la VAR où justement un autre but de Gabriel Jesus a été refusé pour un hors-jeu par un
centimètre
de la rencontre. Donc très léger, on va dire, Damien. Très léger, mais c'est la première intervention de la VAR en première ligue, donc c'est entré dans l'histoire aujourd'hui à West Ham. Et puis sinon, voilà, on peut le dire, une balade de la part de Manchester City, des champions qui effectivement sont déjà eux aussi très en forme.
Manu Petit était avec nous tout à l'heure pour l'éclairage et il dit: ah là là, c'est buteur, Kun doit absolument tirer ce penalty, il peut pas laisser Sterling marquer, ça aurait fait un quadruplé. Est-ce que l'Angleterre parle de ça ou pas pour l'instant? On a plein de flèches et tout le monde est au rendez-vous.
Non, c'est le tireur attitré quand il est sur le terrain. S'il est sur le terrain, c'est lui qui le tire, qui est un triplé ou pas avant. Surtout que Sterling n'avait pas marqué encore son troisième but, donc ça aurait été le ballon du triplé ou le but du triplé pour Sterling au moment où Agüero marque son tir au but, son penalty, pardon. Donc c'est comme ça, c'est lui le tireur. On voit régulièrement en Angleterre, comme dans d'autres championnats aussi, hein, parfois des tireurs s'embrouiller un peu, quelqu'un qui veut prendre le ballon alors que c'est pas lui le tireur désigné par l'entraîneur ou par le capitaine. Bah là, c'était pas le cas. Agüero a pris ses responsabilités, il a marqué, lui qui était remplaçant au coup d'envoi, qui est entré en cours de match. Ça lui a fait du bien aussi de marquer pour son premier match de championnat, lui qui a l'habitude hein, aussi de marquer toujours, ce qui n'est pas par exemple le cas d'Harry Kane, qui jusqu'à aujourd'hui n'avait jamais marqué en première ligue lors de la première journée, lors de son premier match de première ligue pour la saison. Il ne marquait jamais, ben voilà, aujourd'hui il en a mis
7 buts au total pour le Kun lors des matchs d'ouverture, désormais son bilan
c'est incroyable, hein. C'est incroyable,
Julien.
Alors qu'Harry Kane, c'était jusqu'à aujourd'hui, c'était l'inverse complet, quoi.
Julien, j'ai trouvé sur cette première mi-temps et puis même globalement sur le match, hein, s'il y a un petit point noir, avec gris même, on va dire, pour pas être trop sévère, mais Rodri devant cette défense qui a perdu quelques ballons, qui semblait un peu lent dans sa prise de décision, dans ses exécutions de passes. Qu'est-ce qu'on a pensé?
Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tout au début du match, à 0-0, hein, il perd le ballon devant Lanzini. Et après, limite penalty. En tout cas, il est un petit peu... il est limite sur son intervention après sur Lanzini. T'as raison. Alors, au Community Shield contre Liverpool le week-end dernier, il avait plutôt été très bon, notamment dans l'utilisation du ballon. Mais il avait peut-être un petit peu moins de pression sur lui. Aujourd'hui, clairement, la consigne, c'était pour West Ham d'aller le presser le plus possible pour
c'était la cible.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal à rentrer dans la rencontre, ce qui est aussi un petit peu normal parce que, je pense qu'il avait un petit peu d'appréhension, un peu de pression aussi. Premier match en première ligue à l'extérieur avec Manchester City. Ederson qui lui passe le ballon, tu sais, à l'ancienne, hein, comme tu fais, à l'entrée de ta surface. Il faut qu'il se mette un petit peu dans le bain, mais je pense que le talent est tellement important qu'il va vite s'y mettre.
Tottenham finit par s'imposer 3-1. Moi, je pensais qu'il y avait un Kane curse, une malédiction. On va en parler dans un instant. D'abord, Yanis au 32-16. Lui est supporter de Manchester City. Salut Yanis.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Salut Yanis.
Bonsoir Yanis.
Vas-y, ton impression sur ce 5-0 pour ce premier match.
Alors, pour ce premier match, c'est plutôt positif, donc pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Moi, j'étais très pressé de voir Rodri, ce qu'il avait donné. Donc, comme a pu le dire Julien, il a fait une très bonne analyse à ce sujet. Donc, une première mi-temps un peu difficile, mais on a vu qu'en deuxième mi-temps, il allait plus vers l'avant, il était un peu plus à l'aise. Après, bien sûr, c'est un match à l'extérieur, premier match en première ligue, donc faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Mais sinon, ça va être le grand duel à distance avec Liverpool, donc on sent que le moindre faux pas ne va pas être ici.
5 buts face à un adversaire qui est normalement qui va terminer un peu mieux, West Ham, que Norwich. 5 buts à l'extérieur, 2 de plus finalement au différentiel de buts. Est-ce que tu as l'impression que si les Citizens, avec leur victoire au Community Shield et celle-ci, sont encore légèrement au-dessus de Liverpool?
Ah oui, c'est sûr que d'un point de vue technique, etc., j'en suis pas sûr. Comme j'avais pu le dire à l'antenne la semaine dernière au Community Shield, c'est pas forcément une chose incroyable d'avoir gagné ce match-là, parce que je suis pas sûr que Liverpool est à 100% et lui City non plus.
Après,
je pense qu'il faut être quand même attentif à ce que va produire Liverpool. Et je ne sais pas si vous avez bien vu, mais Guardiola, à chaque fois qu'il y avait une erreur, même s'il y avait 3-0, 4-0, il était comme un fou sur son banc, comme si on perdait 2-1, 3-1. Et il sait très bien, il en avait déjà dit l'année dernière, qu'à chaque fois que une action va être loupée, quelque chose, un match va être raté, on allait le payer cher. On l'a bien vu l'année dernière, ça s'est joué à.
Mais même au-delà de ça, tu sais, dans la philosophie Guardiola, c'est-à-dire que rien n'est jamais parfait. Et que même si tu as l'impression que tout se passe bien et que ton équipe va gagner 10-0, il va toujours trouver quelque chose à redire et à travailler. Et c'est ce qui le motive, c'est ce qui motive les gens, les joueurs aussi. Sinon, Manchester City arrête de jouer s'ils mettent des pilules à tout le monde 5-0. Voilà.
Merci beaucoup Yanis pour ces propos.
Merci à vous. Bonne soirée.
Juste pour finir sur City, la semaine prochaine, c'est un Manchester City-Tottenham à l'Etihad. Ouais. Le samedi à 18h30 heure française en direct sur RMC. Et celui-là, il va être plutôt pas mal. Même si c'est assez tôt dans la saison, je pense qu'on peut se régaler.
Ils ont du jus là, justement.
Ça va valoir son pesant de peanuts. Ouais. Dis-moi, justement, Tottenham face au promu Aston Villa, ils se sont fait balader dans la dimension physique la première mi-temps par les vilains. Et ensuite, sur le dernier quart d'heure, avec un but de Tanguy Ndombele et avec un doublé, c'est rare au mois d'août, de Harry Kane.
Ouais, c'est rare au mois d'août, t'as raison. Puis c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est rare aussi, surtout pour son premier match de championnat, puisque jusqu'à présent, il avait jamais marqué pour une première journée de Première Ligue. Ils se sont fait peur, même s'ils ont pris un but quand même contre le cours du jeu. Il faut le dire, ils ont eu 70% de possession de balle. Ils ont beaucoup tiré, pas beaucoup cadré, mais beaucoup tiré, notamment jusqu'au but de Ndombele, un super but d'ailleurs qui va lui faire énormément de bien pour ses débuts en Première Ligue, qu'il ait eu autant d'impact sur un match pareil. C'est intéressant. Et il est aussi là pour ce genre de match. Hein. Il est là pour débloquer des matchs contre des équipes qui jouent très bas, contre des équipes qui laissent très peu d'espace aux joueurs offensifs de Tottenham et qui partira d'un petit peu plus loin vu sa position, puisse débloquer comme ça une rencontre avec une frappe de loin ou avec une passe ou avec son impact balle au pied. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait exactement ça avec le but égalisateur et ensuite Kane d'ailleurs qui Ndombele est aussi impliqué sur un début de Kane. C'est vrai que ça fait du bien à Kane, ça fait du bien à Tottenham, parce qu'il y a un moment où tu sentais un petit peu quand même le stress dans le stade et les supporters n'étaient pas non plus totalement rassurés, même s'ils avaient, comme on l'a dit, beaucoup de ballons. L'entrée en jeu d'Eriksen en seconde période a fait beaucoup de bien. C'était un petit peu surprenant d'ailleurs qu'il soit sur le banc de touche, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien à l'équipe qu'il entre en jeu. Son était suspendu, Dele Alli est toujours blessé, Giovanni Lo Celso n'est pas encore prêt à jouer. Donc voilà, c'est une bonne entrée en matière, même si effectivement ils se sont fait un petit peu peur.
Demain, il y a un Frenchico. Quand je dis Frenchico, messieurs, c'est par rapport aux tendances des 15 dernières années entre Newcastle et Arsenal. Et j'ai envie qu'on se focalise avec toi, Julien, sur ce Manchester United-Chelsea, parce que du Big Six, c'est peut-être les deux équipes sur le papier qui ont l'air un peu moins bien embarquées. Les entraîneurs de chacune de ces deux équipes, eh bien, ce sont des légendes de chaque club.
Ouais, tu as raison, hein, Ole Gunnar Solskjaer, bien sûr, le super sub à l'époque de Sir Alex Ferguson, l'homme du triplé de 99, bien sûr, et cette finale incroyable de Ligue des Champions, tout ça, et Frank Lampard, peut-être, je pense, sans débat, le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea, ou en tout cas l'un des trois meilleurs joueurs de l'histoire de Chelsea, qui, donc, très jeune entraîneur qui vient prendre ce poste-là, un poste à énorme pression, surtout quand tu peux pas recruter, surtout quand tu as perdu ton meilleur joueur Eden Hazard cet été. Ça va être compliqué pour Lampard. Il a montré des belles choses la saison dernière avec Derby County en deuxième division. Là, ce sera autre chose. Je pense qu'il le sait très bien. On va voir demain. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est deux équipes qui finalement ont connu un été pour l'instant assez compliqué en termes de recrutement, hein, pour un qui était interdit de recrutement et l'autre qui a galéré pour attirer des joueurs et qui a fini avec simplement deux défenseurs et un très jeune ailier qui vient de Swansea. Ça va être vraiment intéressant aussi de voir la forme de Paul Pogba, ouais, la forme d'N'Golo Kanté, d'Anthony Martial et
Julien,
du côté des Français.
Ça a donné quoi en prépa Chelsea? Parce que franchement, Frank Lampard, j'ai vu un petit peu l'année dernière parce que j'ai suivi quasiment tous les matchs de Leeds et donc les confrontations entre Leeds et l'équipe de Lampard, mais c'était pas dans le jeu, c'était pas extraordinaire quoi.
Non, alors l'année dernière avec il a fait des jolis coups quand même avec Derby, il avait des jeunes joueurs avec lui. Ça joue pas forcément toujours bien, mais il y a eu des très bons matchs, celui à Old Trafford en Coupe de la Ligue, notamment la victoire à Old Trafford, c'est quand même un match très accompli. Mais c'est vrai qu'il manque par exemple de matchs référence, tu vois, à part celui-là peut-être à Old Trafford contre Manchester United, mais une équipe de United à l'époque avec Mourinho qui était quand même en crise. On va voir là ce que ça va donner. En préparation, il y a quelques bonnes performances contre le RB Salzburg par exemple, qui est leur dernier match amical, ou l'avant-dernier match amical avant demain, où ils ont été très bons. Pulisic avait été très bon dans cette rencontre-là, où ils ont joué beaucoup en contre-attaque, où ils se sont très vite projetés vers l'avant avec Pedro, avec Pulisic. Ça pourra être, je pense, l'identité que Lampard va vouloir donner à cette équipe. Ouais. On verra demain. Demain, je pense qu'il va laisser le ballon à United et qu'ils vont effectivement essayer de jouer en contre. Ça pourrait leur réussir. Il y a des jeunes joueurs aussi. Tammy Abraham qui a fait une très bonne saison avec Aston Villa en Championship. Tu parlais du Championship l'année dernière. Mason Mount qui a été très bon aussi avec Derby et Lampard donc en Championship aussi. On verra, mais c'est un environnement compliqué hein, pour Lampard aussi, même s'il revient chez lui, que c'est une légende du club. Il y a une crise avec le propriétaire, Roman Abramovich, qui a toujours pas de visa pour venir en Angleterre. Il cherche toujours un stade, et pour l'instant, il galère au niveau du stade. T'as cette interdiction de recrutement qui leur fait très mal. Le départ d'Hazard aussi, c'est une situation assez compliquée pour lui.
En parlant de championship quand même, on va rester là-dessus, mais Leeds contre Nottingham Forest, ils sont vraiment fait fourrer cet après-midi. C'est vraiment, mais c'est pas parce que c'est Bielsa, mais c'était scandaleux. Mais bon, parenthèse refermée.
Ça s'appelle de l'intégrisme hein, quand on est focalisé comme ça.
Non, c'est juste que j'ai bon Bielsa. Goût. C'est juste que j'ai bon goût, c'est tout.
Julien, je veux juste poser la question à un jeune entraîneur à côté de moi. Ole Gunnar Solskjaer, il arrive, il est intérimaire, tout se passe bien, il est prolongé. Là, son mercato se passe pas super bien. Est-ce qu'il a plus les chocottes aujourd'hui qu'il ne les avait dans l'après-Mourinho?
Il se passe pas super bien. On a quand même dépensé beaucoup d'argent pour lui.
Ailleurs, d'accord.
Après,
mais les autres,
il garde quand même Pogba. Là où, par contre, je le trouve très intelligent, c'est dans sa manière de communiquer aujourd'hui sur l'état d'esprit justement de Pogba. Il garde son joueur avec lui. Il dit pas oui, en effet, il a voulu faire grève, il a voulu partir, ou il se met pas son joueur à dos. Justement, il le brosse dans le sens du poil. Parce que Pogba va rester là, certainement, et il faut qu'il donne le meilleur.
Un petit mot sur Arsenal, Julien. Est-ce que l'émulation, en tout cas en France, sur la PAL, tu me suis, Pépé, Aubameyang, Lacazette, elle existe également en Angleterre, peut-être les débuts de Nicolas Pépé demain?
Oui, tu as raison. Bien sûr, il y a énormément d'excitation du côté des supporters d'Arsenal pour justement voir ce trio. Comme on en parlait hier aussi, et puis toute la semaine, il va falloir... Voilà, il va falloir qu'Unai Emery, effectivement, trouve la bonne formule, la bonne solution tactique pour les faire jouer à leur meilleur poste, ou en tout cas à un poste où il pourra tirer le meilleur d'eux. Ça veut peut-être dire qu'Aubameyang jouera un peu plus sur le côté gauche, par exemple. Mais dans ce cas-là, tu casses la relation entre Lacazette et Aubameyang, qui a été si efficace avec les deux en pointe la saison dernière, 50 buts à eux deux. Ce qui serait un peu compliqué et un peu dommage pour ton équipe aussi, mais ça voudrait dire si tu gardes ce duo d'attaque, et ben que Nicolas Pépé ne jouera peut-être pas à son meilleur poste. Donc voilà, il va falloir qu'Emery trouve la meilleure formule, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'excitation, et pas que chez les supporters d'Arsenal hein, chez un peu tout le monde, parce que Pépé c'est vraiment l'attraction de ce début de saison. Il y en a d'autres, il y a pas que lui, mais lui surtout parce que par rapport à son prix, parce qu'il y a énormément de clubs anglais qui l'ont suivi de très près toute la saison, et que c'est vrai que ça reste la grande attraction de voir comment le meilleur joueur de la Ligue 1 la saison passée, qui s'appelait pas Kylian Mbappé, va faire ce qu'il va faire en première ligue.
On est impatients de voir ça demain. Newcastle Arsenal à suivre dans PL Live.
C'était Hiroki Sakai, le meilleur joueur de Ligue 1 l'année dernière, s'il te plaît, merci.
Voilà, c'est important, c'est vrai, hein, les digressions de Jonathan ces derniers temps. Merci beaucoup Julien Laurence. Newcastle, salut, Arsenal, Julien. Manchester,
merci les gars,
United,
demain.
Chelsea. Ciao. Au programme notamment avec notre ambassadeur Julien Laurence.
Une digression, ça c'est pas une digression. Cette nuit sur RMC Sport 4 en direct UFC Montevideo en Uruguay avec les débuts de Cyril Gane, Cocorico français. Voilà. Poids lourd, c'est hyper important de le dire parce que franchement, on lui souhaite vraiment le meilleur à Cyril et à toute l'équipe de la MMA Factory.
T'as pas tort face à Raphaël Pessoa. Merci Damien Périnel, on te retrouve demain.
Demain soir.
On débriefera PSG Nîmes, notamment Nantes se déplace à Lille avec Colo, avec Gourcuff qui va superviser, et le derby Strasbourg-Metz. Merci beaucoup les Afteriens. Gardez les pieds sur terre. À demain.
Salut Thomas.
Au revoir.
RMC L'Afterfoot.
This year, an explorer descended almost 40,000 feet into the Pacific, breaking the record for the deepest ever dive. It's amazing what we can do when we think beyond limits. That's why Vodafone are giving small businesses what they need to reach their full potential with their new unlimited 5G data plans. Plus, with Rapid Insurance, get a replacement phone within 4 hours if something goes wrong. Go beyond limits and see what your business can achieve. Search Vodafone Business Unlimited.